Dernier chapitre 7, heureux dénouement. L'amour commençait alors à sortir, et comme il était guéri de sa colère aussi bien que de sa brûlure, il ne songeait plus qu'à Psyché. Psyché devait faire son unique joie. Il devait quitter ses temples pour servir Psyché. Résolution d'un nouvel amant. Les maris ont de ces retours, mais ils les font peu durer. Ce mari-ci ne se proposait plus de fin dans sa passion ni dans le bon traitement qu'il avait résolu de faire à sa femme. Son dessein était de se jeter à ses pieds, de lui demander pardon, de lui protester qu'il ne retomberait jamais en de telles bizarreries. Tant que la journée durait, il s'entretenait de ces choses. La nuit venue, il continuait et continuait encore pendant son sommeil. Aussitôt que l'aurore commençait à poindre, il la priait de lui ramener Psyché, car la fée l'avait assuré qu'elle reviendrait des enfers. Dès que le soleil était levé, notre époux quittait le lit afin d'éviter les visites de sa mère et s'allait promener dans le bois où la belle Éthiopienne avait choisi sa retraite. Il le trouvait propre à entretenir les rêveries d'un amant. Un jour, Psyché s'était endormie à l'entrée de sa caverne. Elle était couchée sur le côté, le visage tourné vers la terre, son mouchoir dessus et encore un bras sur le mouchoir pour plus grande précaution et pour s'empêcher plus assurément d'être vue. Si elle eût pu s'envelopper de ténèbres, elle l'aurait fait. L'autre bras était couché le long de la cuisse. Il n'avait pas la même rondeur qu'autrefois. Le moyen qu'une personne qui ne vivait que de fruits sauvages et laquelle ne mangeait rien qui ne fût mouillé de ses pleurs eut de l'embonpoint. La délicatesse et la blancheur y étaient toujours. L'amour l'aperçut de loin. Il sentit un tressaillement qui lui dit que cette personne était Psyché. Plus il approchait, plus il se confirmait dans ce sentiment. Car quel autre qu'elle aurait eu une taille si bien formée? Quand il se trouva assez près d'elle pour considérer le bras et la main, il n'en douta plus. Non que la maigreur ne l'arrêta, mais il jugeait bien qu'une personne affligée ne pouvait être en meilleur état. La surprise de ce dieu ne fut pas petite. Oh, pour sa joie! Je vous la laisse à imaginer. Un amant que nous romanciers aurait demeuré 2 heures à considérer l'objet de sa passion sans l'oser toucher, ni seulement interrompre son sommeil. L'amour s'est pris d'une autre manière. Il s'agenouilla d'abord auprès de Psyché et lui souleva une main, laquelle il étendit sur la sienne, puis usant de l'autorité d'un dieu et de celle d'un mari, il y imprima 2 baisers. Psyché était si fort abattue qu'elle s'éveilla seulement au 2nd baiser. Dès qu'elle aperçut l'amour, elle se leva, s'enfuit dans son antre, s'alla cacher à l'endroit le plus profond, tellement émue qu'elle ne savait à quoi se résoudre. L'état où elle avait vu le dieu, cette posture de suppliant, ce baiser dont la chaleur lui faisait connaître que c'était un véritable baiser d'amour et non un baiser de simple galanterie, tout cela l'enhardissait, mais de se montrer ainsi noir et défiguré à celui dont elle voulait regagner le cœur, oh, il n'y avait pas d'apparence. Cependant, l'amour s'était approché de la caverne, et repensant à l'ébène de cette personne qu'il avait vue, il croyait s'être trompé et se voulait quelque mal d'avoir pris une Éthiopienne pour son épouse. Quand il fut dans l'antre, « Belle mort !» lui dit, cria-t-il, « vous ne savez guère ce que je suis, de me fuir ainsi. Ma rencontre ne fait pas peur. Dites-moi ce que vous cherchez dans ces provinces. Peu de gens y viennent que pour aimer. Si c'est là ce qui vous est amené, j'ai de quoi vous satisfaire, avez-vous besoin d'un amant? Je suis le dieu qui l'ai fait. Quoi, vous dédaignez de me répondre, vous me fuyez? Hélas, dit Psyché, je ne vous fuis point. J'ôte seulement de devant vos yeux un objet que j'appréhende, que vous ne fuyiez vous-même. Cette voix, si douce, si agréable et autrefois familière au fils de Vénus, fut aussitôt reconnue de lui. Il courut au coin où s'était réfugiée son épouse. « Quoi ? C'est vous ? Dit-il. « Quoi, ma chère Psyché, c'est vous ?» Et aussitôt, il se jeta aux pieds de la belle. « J'ai failli, continua-t-il en les embrassant. Mon caprice est cause qu'une personne innocente, qu'une personne qui était née pour ne connaître que les plaisirs, a souffert des peines que les coupables ne souffrent point. Et je n'ai pas renversé le ciel et la terre pour l'empêcher. Je n'ai pas ramené le chaos au monde. Je ne me suis pas donné la mort, tout Dieu que je suis. Ah, Psyché, que vous avez de sujet de me détester. Il faut que je meure et que j'en trouve les moyens, quelque impossible que soit la chose. » Psyché chercha une de ses mains pour la lui baiser. L'amour s'en douta et se relevant. « Ah ! S'écria-t-il, que vous ajoutez de douceur à vos autres charmes. Je sais les sentiments que vous avez eus. Toute la nature me les a dit. Il ne vous est pas échappé un seul mot de plainte contre ce monstre qui était indigne de votre amour. » Et comme elle lui avait trouvé la main, « Non, poursuivit-il, ne pas accorder point de telles faveurs, je n'en suis pas digne. Je ne demande pour toute grâce que quelques punitions que vous m'imposiez vous-même. Ma Psyché, ma chère Psyché, dites-moi, à quoi me condamnez-vous ? Je vous condamne à être aimé de votre Psyché éternellement, dit notre héroïne, car que vous l'aimiez, elle aurait tort de vous en prier. Elle n'est plus belle. Ces paroles furent prononcées avec un ton de voix si touchant que l'amour ne put retenir ses larmes. Il noya de pleurs l'une des mains de Psyché, et pressant cette main entre les siennes, il se tut longtemps, et par ce silence il s'exprima mieux que s'il eût parlé. Les torrents de larmes firent ce que cœur de parole n'aurait pu faire. Psyché, charmé de cette éloquence, y répondit comme une personne qui en savait tous les traits. Et considérez, je vous prie, ce que c'est qu'aimer le couple d'amants le mieux d'accord et le plus passionné qu'il y eût au monde, employer l'occasion de verser des pleurs et à pousser des soupirs. Amants heureux, ah, il n'y a que vous qui connaissiez le plaisir. Et à cette exclamation, Polyphile, tout transporté, laissa tomber les cris qu'il tenait. Et Acanthe, se souvenant de quelque chose, fit un soupir. Gélaste leur dit avec un sourire moqueur, « Courage, messieurs les amants, voilà qui est bien, et vous faites votre devoir. Oh, les gens heureux et trois fois heureux que vous êtes !» Moi, misérable, je ne saurais soupirer après le plaisir de verser des pleurs. Puis, ramassant le papier de Polyphile, « Tenez, lui dit-il, voilà votre écrit. Achevez Psyché et remettez-vous. » Polyphile reprit son cahier et continua ainsi. Cette conversation de larmes devint à la fin conversation de baisers. Je passe légèrement cet endroit. L'amour pria son épouse de sortir de l'antre afin qu'il apprît le changement qui était survenu en son visage et pour y apporter remède s'il se pouvait. Et Psyché lui dit en riant, vous m'avez refusé, s'il vous en souvient, la satisfaction de vous voir lorsque je vous l'ai demandé. Je pourrais rendre l'appareil à bien meilleur droit et avec bien plus de raison que vous n'en aviez. Mais j'aime mieux me détruire dans votre esprit que de ne pas vous complaire. Aussi bien faut-il que vous cherchiez un remède à la passion qui vous occupe. Elle vous met mal avec votre mère et vous fit abandonner le soin des mortels et la conduite de votre empire. » En disant ces mots, elle lui donna la main pour le mener hors de l'antre. L'amour se plaignit de la pensée qu'elle avait et lui jura par le Styx qu'il l'aimerait éternellement, blanche ou noire, belle ou non belle, car ce n'était pas seulement son corps qui le rendait amoureux, c'était son esprit et son âme par-dessus tout. Quand ils furent sortis de l'antre et que l'amour eut jeté les yeux sur son épouse, il recula 3 ou 4 pas, tout surpris et tout étonné. « Je vous l'avais bien promis, lui dit-elle, que cette vue serait un remède pour votre amour. Je ne m'en plains pas et n'y trouve point d'injustice. La plupart des femmes prennent le ciel à témoin quand cela arrive. Elles disent qu'on doit les aimer pour elles et non pas pour le plaisir de les voir, qu'elles n'ont point d'obligation à ceux qui cherchent seulement à se satisfaire, que cette sorte de passion, qui n'a pour objet que ce qui touche les sens, ne doit pas entrer dans une belle âme et est indigne qu'on y réponde. C'est aimer comme aiment les animaux, au lieu qu'il faudrait aimer comme les esprits détachés du corps. Les amants, les vrais amants, se mettent le plus qu'ils peuvent dans cet état. Ils s'affranchissent de la tyrannie du temps. Ils se rendent indépendants du hasard et de la malignité des astres, tandis que les autres sont toujours en transe, soit pour le caprice de la fortune, soit pour celui des saisons. Et quand ils n'auraient rien à craindre de ce côté-là, les années leur font une guerre continuelle. Il n'y a pas un moment au jour qui ne détruise quelque chose de leur plaisir. C'est une nécessité qu'il aille toujours en diminuant, et d'autres raisons très belles et très peu persuasives. Je n'en veux opposer qu'une à ces femmes. Leur beauté et leur jeunesse ont fait naître la passion que l'on a pour elles. Il est naturel que le contraire l'anéantisse. Je ne vous demande donc plus d'amour. Ayez seulement de l'amitié, ou, si je n'en suis pas digne, quelque peu de compassion. Il est de la qualité d'un dieu comme vous d'avoir pour esclave des personnes de mon sexe. Faites-moi la grâce que j'en sois une. » L'amour trouva sa femme plus belle après ce discours qu'il n'avait encore trouvé. Il se jeta à son cou. « Vous ne m'avez, lui répartit-il, demandé que de l'amitié, mais je vous promets de l'amour. Et consolez-vous. Il vous reste plus de beauté que n'en ont toutes les mortelles ensemble. Il est vrai que votre visage a changé de teint, mais il n'a nullement changé de trait. Et ne comptez-vous pour rien le reste du corps? Qu'avez-vous perdu de lisse et d'albâtre à comparaison de ce qui vous en est demeuré? Allons voir Vénus. Cet avantage qu'elle vient de remporter, quoi qu'il soit petit, la rendra contente et nous réconciliera les uns et les autres. Sinon, j'aurai recours à Jupiter et le prierai de vous rendre votre vrai teint. Si cela dépendait de moi, vous seriez déjà ce que vous étiez lorsque vous me rendîtes amoureux. Ce serait ici le plus beau moment de vos jours. Mais un dieu ne saurait défaire ce qu'un autre dieu a fait. Il n'y a que Jupiter à qui ce privilège soit accordé. S'il ne vous rend tous vos lices sans qu'il y en ait un seul de perdu, je ferai périr la race des animaux et des hommes. Que se feront les dieux après cela? Pour les roses, c'est mon affaire, et pour l'embonpoint, la joie leur amènera. Ce n'est pas encore assez, je veux que l'Olympe vous reconnaisse pour mon épouse. » Psyché se fut jetée à ses pieds si elle n'eût su comment on doit agir avec l'amour. Elle se contenta donc de lui dire en rougissant « Oh, si je pouvais être votre femme sans être blanche, cela serait bien plus court et bien plus certain. » « Ce point-là vous est assuré, repartit l'amour. Je l'ai juré par le Styx, mais je veux que vous soyez blanche. Allons nous présenter à Vénus. » Psyché se laissa conduire, bien qu'il eût beaucoup de répugnance à se montrer et peu d'espérance de réussir. La soumission aux volontés de son époux lui fermait les yeux. Elle se serait résolue pour lui complaire à des choses plus difficiles encore. Pendant le chemin, elle lui conta les principales aventures de son voyage, la merveille de cette tour qui lui avait donné des adresses, l'Achéron, le Styx, l'âne boiteux, le labyrinthe et les trois gueules de son portier, les fantômes qu'elle avait vus, la cour de Pluton et de Proserpine, enfin son retour et sa curiosité qu'elle-même jugeait très digne d'être punie. Elle achevait son récit quand ils arrivèrent à ce château qui était à mi-chemin de Paphos et d'Amathonte. Vénus se promenait dans le parc. On lui alla dire, de la part de l'amour, qu'il avait une africaine assez bien faite à lui présenter. Elle en pourrait faire une quatrième grâce, non seulement brune comme les autres, mais toute noire. Cythérée revoit alors à sa jalousie, à la passion dont son fils était malade et qui, tout considéré, n'était pas un crime, aux peines à quoi elle avait condamné la pauvre Psyché, peine très cruelle et qui lui faisait à elle-même pitié. Outre cela, l'absence de son ennemi avait laissé refroidir sa colère, de façon que rien ne l'empêchait plus de se rendre à la raison. Elle était dans le moment le plus favorable qu'on eût pu choisir pour accommoder les choses. Cependant, toute la cour de Vénus était accourue pour voir ce miracle, cette nouvelle façon de mort. C'était à qui la regarderait le plus près. Quelque étonnement que sa vue causa, on y prenait du plaisir, et on aurait bien donné une demi-douzaine de blanches pour cette noire. Au reste, soit que la couleur eût changé son air, soit qu'il y eût de l'enchantement, personne ne se souvint d'avoir rien vu qui lui ressemblât. Les jeux et les ris firent connaissance avec elle d'abord, sans se la remettre, admirant les grâces de sa personne, sa taille, ses traits, et disant tout haut que la couleur n'y faisait rien. Néanmoins, ce visage d'Éthiopienne hanté sur un corps de grec semblait quelque chose de fort étrange. Toute cette cour la considérait comme un très beau monstre et très digne d'être aimé. Les uns assuraient qu'elle était fille d'un blanc et d'une noire, les autres d'un noir et d'une blanche. Quand elle fut à quatre pas de Vénus, elle mit un genou en terre. « Charmante reine de la beauté, lui dit-elle, c'est votre esclave qui revient des lieux, vous l'avez envoyée. » Tout le monde la reconnut aussitôt. On demeura fort surpris. Les jeux et les ris, qui sont un peuple assez étourdi, eurent de la discrétion cette fois-là et dissimulèrent leur joie de peur d'irriter Vénus contre leur nouvelle maîtresse. Vous ne sauriez croire combien elle était aimée dans cette cour. La plupart des gens avaient résolu de se cantonner, à moins que Cythérée ne la traitât mieux. Psyché remarqua fort bien les mouvements que sa présence excitait dans le fond des cœurs et qui paraissaient même sur les visages. Mais elle n'en témoigna rien et continua de cette sorte. Proserpine m'a donné charge de vous faire ses compliments et de vous assurer de la continuation de son amitié. Elle m'a mis entre les mains une boîte que j'ai ouverte, bien que vous n'eussiez défendu de l'ouvrir. Je n'oserais vous prier de me pardonner, et je me viens soumettre la peine que ma curiosité a méritée. Vénus, jetant les yeux sur Psyché, ne sentit pas tout le plaisir et la joie que sa jalousie lui avait promis. Un mouvement de compassion l'empêcha de jouir de sa vengeance et de la victoire qu'elle remporte. Si bien que, passant d'une extrémité en une autre, à la manière des femmes, Elle se mit à pleurer, releva elle-même notre héroïne, puis l'embrassa. « Je me rends, dit-elle, Psyché, oubliez le mal que je vous ai fait. Si c'est effacer les sujets de haine que vous avez contre moi et vous faire une satisfaction assez grande que de vous recevoir pour ma fille, je veux bien que vous la soyez. Montrez-vous meilleure que Vénus, aussi bien que vous êtes déjà plus belle. Ne soyez pas si vindicative que je l'ai été et allez changer d'habit. Toutefois, ajouta-t-elle, vous avez besoin de repos. Puis, se tournant vers les grâces, mettez-la au bain qu'on a préparé pour moi et faites-la reposer ensuite. Je l'irai voir en son lit. La déesse n'y manqua pas et voulut que notre héroïne couchât avec elle cette nuit-là, non pour l'ôter à son fils, mais on résolut de célébrer un nouvel hymen et d'attendre que notre belle lui reprît son teint. Vénus consentit qu'il lui fût rendu, même qu'un brevet de déesse lui fût donné, si tout cela ne pouvait s'obtenir de Jupiter. L'amour ne perd point de temps, et pendant que sa mère était en belle humeur, s'en va trouver le roi des dieux. Jupiter, qui avait appris l'histoire de ses amours, lui en demanda des nouvelles. Comme il se portait de sa blessure, pourquoi il abandonnait les affaires de son état? L'amour répondit succinctement à ses questions et vint au sujet qui l'amenait. Mon fils, lui dit Jupiter en l'embrassant, vous ne trouverez plus d'Éthiopienne chez votre mère. Le teint de Psyché est aussi blanc que jamais il fut. J'ai fait ce miracle dès le moment que vous m'avez témoigné le souhaiter. Quant à l'autre point, le rang que vous demandez pour votre épouse n'est pas une chose si aisée à accorder qu'il vous semble. Nous n'avons parmi nous que trop de déesses. C'est une nécessité qu'il y ait du bruit où il y a tant de femmes. La beauté de votre épouse étant telle que vous dites, ce sera un des sujets de jalousie et de querelle, lesquels je ne viendrai jamais à bout d'apaiser. Il ne faudra plus que je songe à mon office de foudroyant. Oh, j'en aurai assez de celui de médiateur pour le reste de mes jours. Mais ce n'est pas ce qui m'arrête le plus. Dès que Psyché sera déesse, il lui faudra des temples aussi bien qu'aux autres. L'augmentation de ce culte nous diminuera notre portion. Déjà, nous nous morfondons sur nos autels tant ils sont froids et mal encensés. Cette qualité de Dieu deviendra à la fin si commune que les mortels ne se mettront plus en peine de l'honorer. Que vous importe, reprit Labour, votre félicité dépendait-elle du culte des hommes? Qu'ils vous négligent, qu'ils vous oublient, ne vivez-vous pas ici heureux et tranquille, dormant les trois quarts du temps, laissant aller les choses du monde comme elles peuvent, tonnant et grêlant lorsque la fantaisie vous en vient? Vous savez combien quelquefois nous nous ennuyons. Jamais la compagnie n'est bonne s'il y a des femmes qui soient aimables. Si belle et vieille, Junon, de mauvaise humeur, Cérès sans sa divinité de province, et n'a nullement l'air de la cour. Minerve est toujours armée. Diane nous rompt la tête avec sa trompe. On pourrait faire quelque chose d'assez bon de ces deux dernières, mais elles sont si farouches qu'on ne leur oserait dire un mot de galanterie. Pomone est ennemie de l'oisiveté et a toujours les mains rudes. Florée est agréable, je le confesse, mais son sein l'attache plus à la terre qu'à ses demeures. L'aurore se lève de trop grand matin, on ne sait ce qu'elle devient tout le reste de la journée. Il n'y a que ma mère qui nous réjouisse, encore a-t-elle toujours quelque affaire qui la détourne et demeure une partie de l'année à Paphos, Cythère ou à Matonte. Comme Psyché n'a aucun domaine, elle ne bougera de l'Olympe. Vous verrez que sa beauté ne sera pas un petit ornement pour votre cour. Ne craignez point que les autres lui portent envie, il y a trop d'inégalités entre ses charmes et les leurs. La plus intéressée, c'est ma mère, qui y consent. Jupiter se rendit à ses raisons et accorda à l'amour ce qu'il demande. Il témoigna ce qu'il apportait son consentement à l'apothéose par une petite inclination de tête qui ébranla légèrement l'univers et le fit trembler seulement une demi-heure. Aussitôt, l'amour fit mettre les signes à son char, descendit en terre et trouva sa mère qui elle-même faisait office de grâce autour de Psyché, non sans lui donner 1000 louanges et presque autant de baisers. Toute cette cour prit le chemin de l'Olympe, les grâces se promettant bien de danser aux noces. Je n'en décrirai point la cérémonie non plus que celle de l'apothéose. Je décrirai encore moins les plaisirs de nos deux époux. Il n'y a que seul qui puisse être capable de les exprimer. Ces plaisirs leur eurent bientôt donné un doux gage de leur amour. Une fille qui attira les dieux et les hommes dès qu'on la vit. On lui a bâti des temples sous le nom de la volupté. Ô douce volupté, sans qui de notre enfance le vivre et le mourir nous deviendraient égaux. Aimante universelle de tous les animaux, que tu sais attirer avec violence par toi tout se meut ici-bas. C'est pour toi, c'est pour tes appas que nous courons après la peine. Il n'est soldat ni capitaine, ni ministre d'État, ni prince, ni sujet qui ne t'ait pour unique objet. Nous autres nourrissons, si pour fruit de nos veilles un bruit délicieux nous charmait nos oreilles, si nous nous sentions chatouillés de ce soin, ferions-nous un mot de chanson? Ce qu'on appelle gloire en termes magnifiques, ce qui servait de prix dans les Jeux Olympiques, n'est que toi proprement, divine volupté. Et le plaisir des sens n'est-il de rien compté? Pourquoi sont faits les dons de flore, le soleil couchant et l'aurore, Pomone et ses mets délicats, Bacchus, l'âme des bons repas, les forêts, les eaux, les prairies, mère des douces rêveries? Pourquoi tant de beaux arts, qui tous sont tes enfants? Mais pourquoi les chloris aux appâts triomphants que pour maintenir ton commerce? J'entends innocemment, sur son propre désir, quelque rigueur que l'on exerce, encore y prend-on du plaisir. Volupté, volupté, qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce, ne me dédaigne pas, viens t'en loger chez moi, tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout, il n'est rien qui ne soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Viens donc, et de ce bien, ô douce volupté, peux-tu savoir au vrai la mesure certaine? Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté, car 30 ans, ce n'est pas la peine. Polyphile cessa de lire. Il n'avait pas cru pouvoir mieux finir que par l'hymne de la volupté dont le dessein ne déplut pas tout à fait à ses trois amis. Après quelques courtes réflexions sur les principaux endroits de l'ouvrage, « Ne voyez-vous pas, dit Ariste, que ce qui vous a donné le plus de plaisir, ce sont les endroits où Polyphile a tâché d'exciter en vous la compassion ?»« Ce que vous dites est fort vrai, repartit Acanthe. Je vous prie de considérer ce gris-là, ce couleur d'aurore, cet orangé et surtout ce pourpre qui environne le roi des astres. En effet, il y avait très longtemps que le soir ne s'était trouvé si beau. Le soleil avait pris son char le plus éclatant et ses habits les plus magnifiques. Il semblait qu'il se fût paré pour plaire aux filles de Néré. Dans un nuage bigarré, il se coucha cette soirée. L'air était peint de 100 couleurs. Jamais par terre plein de fleurs n'eut tant de sortes de nuances. Aucune vapeur ne gâtait par ses malignes influences le plaisir qu'Acanthe goûtait. On lui donna le loisir de considérer les dernières beautés du jour. Puis, la lune étant en son plein, nos voyageurs et le cocher qui les conduisait la voulurent bien pour leur guide. Fin.